voudrais ce matin vous raconter l'histoire d'un mystère, le mystère d'une chanson populaire. Pourquoi c'est celle-là qui prend et pas une autre? Est-ce le thème qui fait qu'on l'aime tant? Est-ce la mélodie qui devient celle de notre vie? Est-ce la manière dont elle est chantée qui nous donne une irrépressible envie de la fredonner? Est-ce la personnalité du chanteur parfaitement adaptée à ce qu'il chante? Je voudrais ce matin vous parler de Vanina, de Du côté de chez Swann, de l'envie d'avoir envie. Je voudrais vous parler aussi des Lacs du Connemara de Michel Sardou ou de Toxic de Britney Spears et de bien d'autres encore. La Bohème, Aznavour, Résiste de France Gall. Vous parlez de tout cela, c'est vous parler de cette rencontre entre une chanson et un peuple. On aurait presque envie de dire, avec des accents d'hier, une rencontre entre une chanson et l'âme d'un peuple. Mais au fond, à quoi tient cette rencontre? À la chance? Vraiment? À moins qu'il faille penser, comme dans cette citation faussement attribuée à Éloire, qu'il n'y a pas de hasard, mais simplement des rendez-vous. Je crois qu'une chanson populaire est plus qu'un tube. Un mot inventé par Boris Vian pour désigner une chanson à succès, mais finalement assez quelconque et qui peut-être ne durera pas, qui ressemble un peu trop à toutes les autres. Dans une chanson populaire, le banal et le singulier se rencontrent pour fusionner, et voilà le miracle accompli. On ne peut plus résister. On ne peut pas s'empêcher d'entrer dans le port d'Amsterdam. On ne peut pas s'empêcher de chanter Vanina. On ne peut pas empêcher son cœur de se remplir de joie. Et voilà enfin ce peuple. Ce peuple si souvent absent ou divisé. Le voilà enfin là, à chanter d'une seule voix. Toute chanson populaire, en ce sens, est lyrique. Du simple fait qu'en elle, enfin, nous sommes ensemble. On chante les Lacs du Connemara aussi bien dans les bals populaires que dans les soirées d'école de commerce. Enfin, un même appel à la vie, enfin une même envie de vivre nous rappelle que nous ne sommes pas simplement des individus isolés, des monades, des particules élémentaires. Elle nous donne l'envie, cette chanson populaire, l'envie d'avoir envie et l'envie d'être ensemble. Mais la question demeure, qu'est-ce qui fait une chanson populaire? Existe-t-il une science de cet art majeur? Ou doit-on s'incliner devant le mystère d'une alchimie qui restera à jamais impénétrable? Pour en parler ce matin, j'ai l'immense joie de recevoir un chanteur populaire justement, Dave, et pas n'importe lequel, le chanteur aux 50 ans de carrière quand même, dont la France aime tant chanter, et depuis si longtemps, Vanina, Lettre à Hélène, Mon cœur est malade, Du côté de chez Swann et bien d'autres. Dave donc, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à répondre à cette belle question. À quoi tient la magie d'une chanson populaire?
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Dave.
Bonjour.
Vous allez bien?
Je vais bien. Je me disais que dans ce que vous avez récité comme importance dans une chanson populaire, vous avez oublié la voix du chanteur. Mais bon, ça doit être, ça doit être l'égocentrisme de ma part.
Non, mais on va en parler.
Parce
mais
que ça joue. Hein.
Non, mais bien sûr que ça joue. D'ailleurs, vous êtes marrant parce que vous dites souvent qu'on n'arrête pas de me dire que je suis sympa, que je suis drôle.
Oui, mais pas que je chante bien. Ouais.
Mais on ne vous dit pas que vous avez une belle voix. Alors moi, je vais vous le dire. J'ai préparé l'émission en écoutant quand même près de 50 ans de musique.
Ouais, 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 ouais.
J'ai vécu avec vous là depuis deux jours. Et je trouve que vous chantez extrêmement bien. En fait, vous auriez pu être chanteur lyrique, d'ailleurs.
J'ai fait du lyrique, d'ailleurs, avec une chanteuse, ceux qui connaissent et ceux et celles qui connaissent le lyrique la connaissent, elle s'appelle Renée Doria, qui a fait beaucoup d'albums à l'époque, avec Alain Vanzo et tout ça. Et c'était mon premier impresario, comme on ne dit plus, qui m'a envoyé chez elle, parce qu'il dit, tu chantes bien pour le moment, ça ne va peut-être pas durer, pas complètement tort, mais en même temps, le cours de la lyrique m'ont dévié, évidemment, parce qu'on ne chante pas pareil, on ne place pas les voix de la même manière pour dire un A, on dit O, ça ne marche pas spécialement. Mais je pense quand même, un jour, un journaliste dans le journal Le Soir, qui est un journaliste important en Wallonie, en se penchant sur mon problème, je ne sais pas là, on m'a envoyé l'article, il disait peut-être qu'on est fatigué de sa voix et puis on va peut-être le re-aimer après. Et c'est vrai que j'ai vécu ça, par exemple, avec Francis Cabrel, que j'ai eu en première partie à l'Olympia. Il chantait trois chansons et que j'adorais. Et puis à un moment, j'en ai eu marre et maintenant je l'aime de nouveau. Donc ça peut arriver, c'est comme une histoire d'amour.
C'est la magie un peu. Il y a un moment, la rencontre a lieu.
Ouais.
Parfois, elle n'a pas lieu. D'ailleurs, sur votre voix, quand même, il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'il y a une très très belle technicité. Mais sur Vanina, par exemple, dès que les gens essayent de le chanter, en fait, ils n'y arrivent pas.
Non. C'est-à-dire le seul imitateur qui arrive, Michael Gregorio, parce qu'il a une voix absolument extraordinaire. Sinon, les autres ont du côté de Tissan pour m'imiter, c'est plus simple. Et puis, pour le plus jeune, ils ne savent pas ce que c'est, ni l'une ni l'autre chanson, ils ne connaissent plus, donc ils n'ont pas besoin de m'imiter.
Alors, j'avais entendu une fois Iggy Pop qui disait, comme j'ai écrit une chanson, The Passengers, qu'elle est tellement bien que, en fait, je peux pas avoir une vie ratée. Même quand j'ai des problèmes, bah, je me dis, de toute façon, j'ai écrit The Passengers, donc au fond, ça va. D'où ma question, est-ce que ça vous fait pareil, vous, par exemple, avec Vanina? Est-ce que vous vous réveillez chaque matin en vous disant, au fond, vu que j'ai chanté Vanina, en fait, tout va bien?
C'est marrant parce que ce matin, en me réveillant à cause de cette émission, on va dire grâce, plus joli, grâce à cette émission, j'ai penché à Disraeli pour André Mauroy. Vous voyez,
ah bon,
parce que j'ai lu ça quand j'avais 14 ans. Je sais pas pourquoi. Et mon père me dit, tu vas lire quoi quand tu seras grand? Je trouve ça aberrant parce que maintenant j'ai lu Tintin, évidemment. Donc, il y a des choses comme ça qui montent dans la tête, on sait pas pourquoi. Mais le secret, personne ne l'a jamais perché, je crois. On ne sait pas. Sinon, on ferait que des tubes, hein. Ça, c'est certain.
Ouais.
Mais c'est vrai que moi, j'ai entendu le Danse des Canards dans un stade en Californie et je me suis quand même dit, où va le monde?
Il y a peut-être une distinction que je suggérais dans mon édito d'entrée entre le tube et la chanson populaire. Parce que il peut y avoir un tube d'été, ok, on le chante tout l'été, mais finalement, ça ne va pas rester. Ça ne va pas s'inscrire comme ça dans le patrimoine. Est-ce que vous pensez que dans une chanson populaire, quand même, il y a une forme de simplicité? Et toujours une forme de simplicité ou presque de naïveté?
Dans mon cas, c'est certain, mais il y a plusieurs manières d'aborder les sujets. Je veux dire, Maxime Le Forestier, qui est de ma génération, il va être un peu plus jeune, a toujours chanté des chansons avec des thèmes un peu plus graves, comme le parachutiste que Jean Baez a chanté et tout ça. Donc il n'y a pas que ça. Moi, je me suis toujours dit que le sujet le plus important qui existe dans ma vie, c'est l'amour.
Oui.
C'est ce que j'ai en commun avec mon ami Jésus, qui aime beaucoup. Donc, ce n'est jamais, ou presque jamais, j'ai chanté autre chose. Et puis, le garçon qui écrit le texte de toutes mes chansons est la même personne.
Oui, Patrick Loiseau.
Ça fait 51 ans
qu'on vit ensemble. Pour bien entendre notre question, qu'est-ce qui fait une grande chanson populaire? Je vous propose qu'on écoute ça.
Mais il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent que je ne suis plus. On sourit en revoyant sur les photos jaunies l'air un peu trop sûr de soi que l'on prend à 16 ans et que l'on fait de son mieux pour paraître plus vieux. Bien refaire un tour du côté de chez Swann, revoir mon premier amour qui me donnait rendez-vous sous le chêne et se laisser t'embrasser sur la joue. Je ne voudrais pas refaire le chemin à l'envers et pourtant j'ai payé cher pour revivre un seul instant le temps du bonheur à l'ombre d'une fille.
Alors Dave, vous me racontiez un truc drôle pendant qu'on écoutait ce tube, cette chanson populaire.
Oui, c'est-à-dire que tout à l'heure dans le taxi pour venir jusqu'à ici, parce que j'ai pas le droit de conduire à cause de mon petit accident, j'ai rappelé à mon attaché de presse, que Sichuan c'est une province importante en Chine, et donc ce serait peut-être le moment de sortir du côté de Sichuan. Ouais.
Vous n'avez pas eu de succès en Chine, si?
Non. Pas que je sache, en tout cas, non.
On ne sait pas tout ce qui se passe là-bas. Ça se trouve, il y a plein de gens qui sont en train de vous écouter et qui n'ont pas le droit de le dire.
Oui, peut-être.
Dites-moi, Dave, est-ce que vous pensez que vous avez eu de la chance?
Évidemment. Vous parlez de hasard tout à l'heure, parce que le hasard a beaucoup d'importance dans ma vie. Un jour, dans un taxi, un chauffeur de taxi, je pense qu'il était de l'Afrique du Nord, il m'a dit qu'il y a un dicton arabe qui dit que le hasard, c'est l'ombre de Dieu. J'aime assez.
Ouais,
et Saint-Augustin dit que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Donc le hasard, c'est, si on est un petit peu croyant, ou au moins déiste, a une certaine importance. Et donc, je pense en effet que j'ai croisé le hasard.
Je crois savoir que vous avez été un enfant très mystique, très croyant.
Oui, je voulais devenir pasteur. Et mon père était très, très... Enfin, il y avait mon père et moi, on allait tous les deux aller au temple, comme on dit en France, pour les protestants. Et lui était d'origine juive. Il m'appelle Levenbach. C'est Lévi qui habitait sur un bar, c'est-à-dire un ruisseau.
Ah oui.
Mais je suis protestant. Je m'appelle déiste, ça me va mieux. Mais je me suis beaucoup penché sur les religions, notamment juives, évidemment, à cause de mon père. Et sa sœur était à Wiesel, Women International. International Zionistic Organization, donc ça m'intéressait beaucoup. Et elle m'a dit, n'y va pas parce que tu ne seras pas la bienvenue, parce que ta mère n'est pas juive.
Oui, c'est ça. Comment on fait pour provoquer la chance?
Je ne sais pas si on peut, parce que moi, mon père m'a appris à jouer au bridge, et puis avec mon musicien, je joue plutôt au poker. Et la chance, ça vient à sa part. Hein. Donc, je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Il est certain qu'il ne faut pas rester au lit en disant « j'ai pas de chance ». Il faut quand même se lever.
Bah, par exemple, dans votre cas, vous avez quand même quitté la Hollande en étant jeune. Vous êtes venu en bateau, je crois, en France. Ça a pris des semaines, je crois. Ah, et puis, vous avez commencé quand même à faire la manche dans les rues de Marseille.
Pendant des années.
Bah, ouais. C'est quand même... Il y a quand même une action, déjà. On va la chercher, la chance. Et puis, il y a aussi une disponibilité, je pense.
Mais moi, je ne voulais pas devenir... Je suis vraiment de la génération beatnik, quoi. Ouais. Que j'appelle la génération beat parce que je suis très, très marrant. Mais, n'est-ce pas? Mais, donc, c'est vrai que je voulais vivre en chantant. Mais je ne voulais pas spécialement devenir connu. Mais je me suis rendu compte, surtout à Saint-Tropez, que je ne connaissais pas, mais je chantais avant dans un crêperie rue Saint-André-des-Arts à Paris. On m'a dit, va à Saint-Tropez, c'est là que ça se passe. Et dans la rue, le jour, quand j'avais chanté le soir, les gens faisaient ces petits gestes, le coude, en disant, t'as vu, c'est le chanteur. Ça me plaisait bien.
Ouais.
Et après, quand on m'a proposé des disques, je dis, à quoi ça sert d'être connu à Strasbourg quand t'es à Brest ou à Marseille quand t'es à Lille? Ouais. Donc, mais après, je me suis dit, c'est quand même pas mal de passer à la télé.
Ouais, et puis, il y a des moments où ça va de ville en ville. Je rappelle quand même pour nos auditeurs que c'était un autre monde. Il y avait des moments où vous vendiez 40 000 albums par jour. C'est quand même un chiffre dingue. Ça n'existe plus. Voilà, vous avez parfois, sur certains succès, vendu des millions en fait, d'albums. Ouais. J'ai l'impression que vous avez un rapport assez tranquille au succès, assez apaisé. Il y en a d'autres. je pense par exemple à Nino Ferrer. Ouais. Il a eu un gros succès avec Mirza, mais où est passé ce chien? Ouais. Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Ouais. Et il l'a mal vécu parce qu'il avait l'impression que ses chansons, au fond, ne lui ressemblaient pas.
Ouais.
Vous n'avez jamais eu ce problème?
Non, je pense que c'est drôle, parce que tout à l'heure, en arrivant à la maison de la radio ici, je me suis rappelé, quand je suis arrivé la première fois, il y avait une barrière, j'étais en voiture, il n'a pas ouvert le monsieur qui sert de cette barrière, et j'ai dit, mais enfin, vous ne voyez pas que je suis.
Aïe.
Je me dis, quelle horrible phrase, comment peut-il dire? J'étais vraiment con quand même, c'était au début. Hein.
Ouais, mais ce qui est beau, c'est que vous vous êtes rendu compte, vous avez eu honte dès la première fois.
Oui, de dire une phrase pareille, parce que oui, c'est, oui, c'est pas. Donc,
mais est-ce que c'est vrai, je vous interromps, mais est-ce que c'est vrai que, vous dites ça maintenant, mais est-ce que c'est vrai que ce jour-là, donc je sais pas, il y a 40 ans,
ouais.
Est-ce que vous avez eu honte tout de suite?
Ah oui.
C'est très bon signe, ça. Parce que vous savez, parfois, les gens n'ont pas honte. Hein.
Oui, j'en connais plein, oui. C'est un autre sujet. Hein. On peut en parler, je voulais. J'ai des noms.
vous avez un rapport à l'identité finalement un peu complexe. On a l'impression que voilà, vous ne vous posez pas 50 questions. Est-ce que ces chansons me ressemblent, etc. Et en même temps, vous êtes quand même dans une posture assez singulière. C'est-à-dire que vous êtes un des chanteurs populaires français les plus connus, mais vous êtes hollandais. Vous avez été longtemps chanteur pour Minette, comme on dit.
Minette, et j'étais chanteur pour Minette, oui.
Alors que vous êtes quand même gay. Enfin, vous avez été bi, mais vous êtes quand même surtout gay.
Ah, je ne suis plus rien, là. Hein. À 78 ans, ni l'un ni l'autre.
Et ça fait du bien, ça. On est libéré?
Ah, c'est calme. Mais,
ouais.
Mais mon problème, c'est qu'à cause d'une petite chute que j'ai fait il y a quelques mois, je n'ai plus ni goût ni odorat. Ça m'emmerde, par contre, parce que j'adore manger et boire.
Vous faites très bien la cuisine. Vous avez même sorti un livre de cuisine, d'ailleurs.
Exactement. Ouais.
Et vous êtes avec donc Patrick Loiseau depuis 50 ans. Alors, c'est votre parolier.
Ouais.
C'est pas le seul. Renaud, par exemple, vous a écrit une chanson aussi. Mais c'est toujours. Est-ce que parfois vous êtes surpris par les paroles qu'il écrit pour vous?
Ah oui.
Et je pense notamment à une chanson qui est sur votre album de 2019, Souviens-toi d'aimer, qui est une chanson très très dure, très triste, qui s'appelle Dernier regard, où il est question de...
La mort de ma mère.
Vous avez accompagné votre mère dans une euthanasie qui était à l'époque tolérée en Hollande. Mm-hmm. C'est lui qui a écrit ça?
Oui. Oui, il n'était pas là au moment qu'elle est morte, parce ma mère est enterrée par mes deux frères et ma sœur, qui est entre-temps morte aussi. Mais c'est vrai que la mort est rentrée dans la vie des gens gays, puisqu'on appelle ça comme ça. C'est un mot anglais, c'est pas spécialement gay d'être pédé, mais c'est une expression qui existe.
Ouais.
Mais donc j'ai eu affaire, évidemment, à partir de 84, en gros, à la mort, à travers la disparition, enfin, je n'aime pas le mot disparition, à la mort de beaucoup d'amis à moi, qui sont morts du sida. Donc j'étais beaucoup plus jeune, donc la mort est rentrée... Quand il y a ce jeune, la mort fait partie de ma vie à un tel point que je n'ai absolument pas peur de la mort. Et quand l'avion bouge, je me fais caca dessus. Donc c'est pas complètement vrai.
Ouais. Alors on va tout de suite écouter une chanson que nous allons tous reconnaître et qui nous permettra d'entendre aussi de nouveau raisonner la question. En fait, qu'est-ce qui fait une chanson populaire?
Ma vie ressemble à une terre brûlée.
Évidemment, Vanina de Dave.
Et sur France Inter, ce qui est quand même étonnant.
Eh oui.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Dave qui a en plus le sens de l'humour, qui a l'air surpris qu'on écoute Vanina sur France Inter. Moi, ça ne me surprend pas. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Entendre cette chanson, on voit bien qu'on n'arrive pas trop à dire ce qui fait que ça le fait, mais c'est juste irrésistible. En fait, ça marche, ça prend. Je reviens quand même sur ma question de départ. Est-ce que vous croyez que une chanson populaire, au fond, elle dit toujours quelque chose?
Il y a plusieurs raisons, je pense, pour lesquelles une chanson peut marcher. Dans ce cas-là, il y a évidemment une forme de, on va dire, c'est un peu prétentieux, énergie solaire dans cette chanson,
ouais,
qu'on aime bien, quoi. Il y a aussi la voix qui était, je chante à la fin de mon tour de chant, qu'on dit plus tour de chant maintenant, c'est par été le mot de Juliette Gréco, on dit songliste, très, ouais, très français, parce qu'il faut quand même chauffer la voix pour le faire, ça, ouais, c'est sûr. Donc il y a ça, mais je pense qu'il faut, il y a un petit truc d'originalité qui s'explique pas. Donc, on ne sait pas. Moi, je me souviens à l'époque, et je sais pas s'il existe encore, au printemps, il y avait plein d'émissions avec des gens des maisons de disques qui disaient ce qui allait marcher l'été. Ils en savaient rien.
Ouais.
N'importe quoi.
Ils font comme s'ils savaient.
Oui, mais évidemment, ils sont payés pour ça, et plutôt bien. Mais,
ouais.
Non, on sait pas. Mais c'est vrai que cette chanson a été un énorme succès d'une chanteuse qui s'appelle Del Shannon aux États-Unis. Je crois que c'était déjà en 1959. Je me souviens, j'avais fait un télé pour Jacques Martin à l'époque où j'ai chanté Vanina. Juste avant de monter, on me dit qu'il venait de mourir, le chanteur original.
Ouais. Il
s'appelle Runaway.
Ouais.
Elvis Presley l'a fait, beaucoup de gens l'ont fait dans une version assez différente. La seule où on fait ce passage et qui est fait par un orgue, par un synthé, qui s'appelle un farfisa, tamparabara, ça, il n'y a que nous qui l'avons fait. Alors, chacun qui a fait ce disque a dit que c'était lui qui avait eu l'idée.
C'est
moi,
drôle.
Moi, je me souviens plus qui a eu l'idée.
Mais en même temps, ça prouve aussi que parfois, ce qui fait la créativité, c'est juste un petit pas de côté. Hein. C'est juste une petite variation. Souvent, on croit que la créativité, c'est je change tout, j'ouvre un champ nouveau, je casse les codes complètement. La plupart des œuvres, en musique, mais aussi en littérature, aussi en philosophie, elles existent à partir du moment où il y a juste un tout petit truc différent, quoi. Et finalement, c'est le petit truc qui change tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une chanson comme ça, ça donne vraiment envie et c'est peut-être aussi le propre d'une chanson populaire. Alors voilà, nous sommes toujours sur France Inter, je sais que c'est surprenant, après Vanina de Dave, l'envie de Johnny Hallyday. Alors vous savez, quand j'écoute cette chanson, je me dis un truc bizarre, je me dis en fait, une chanson populaire, c'est un condensé d'intelligence. Je m'explique. En fait, on s'est souvent moqué de Johnny. Déjà, les gens à l'époque qui aimaient la pop anglaise, ils méprisaient Johnny. Aujourd'hui, des gens disent quand même que Johnny, c'est pas l'homme le plus intelligent du monde. Moi, je pense qu'on ne peut pas chanter comme ça, sans avoir une vraie intelligence de la vie.
Ils sont complètement d'accord. Il avait sa forme d'intelligence. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y en avait une qui lui a fait faire ce qu'il a fait et la réussite qu'il a eue et qu'il a méritée. C'est-à-dire qu'en plus, c'était un homme vraiment gentil, ce qui est rare quand des mecs qui ont autant de succès parfois,
ouais, ouais,
sont parfois
vrai,
imbuvables. C'était vraiment, il était drôle, il avait de l'humour. J'ai de très très bons souvenirs avec lui. Il y en a qui sont même racontables, mais je ne les raconterai pas quand même.
Allez, juste un.
Vous voulez?
Bah oui, bien sûr.
C'était, à l'époque, il y avait une boîte à la mode, il s'appelait c'est incroyable. Ça, c'est depuis que je me suis tombé sur
ça. Ça va revenir là, si vous cherchez pas. Faut lâcher et ça va venir.
Vie docteur. On était dans un.
Dites comme ça vient, Dave.
On était dans une boîte, mais au rez-de-chaussée, il y avait un restaurant. Il était déjà à 2h du matin. On était quand même légèrement entamé et avec Johnny. Et à un moment, il y a une actrice, dont je ne citerai pas le nom, qui est arrivée. Johnny a commencé la phrase en disant « Est-ce que tu es toujours ?» Et moi, j'ai fini au même prix. Il a glissé sous la table. Il était déjà plus avec Sylvie depuis des années. Et en hurlant de rire, il faut que je raconte ça à Sylvie. Ça, il se va me rendre. Mais 20 ans après... on était dans une première de Sylvie Vartan, donc, et Johnny a raconté cette histoire Il n'était pas clair, très clair à cette époque-là. 20 ans après, il a raconté cette histoire à Barbelivien, qui est quand même un des auteurs qui a le plus de succès dans la chanson.
Il en a fait une chanson.
Il n'en a pas fait de chanson, mais ça fait rire aussi. Parce que le seul qui est pari, c'est la fille en question, parce qu'elle n'était plus au même prix, sûrement.
Oui, c'est vrai que je comprends qu'elle n'ait pas apprécié la blague. Alors, juste, revenons à. Vous avez sorti en 2020, je crois, un an après votre album Très Beau, qui porte pour titre Souviens-toi d'aimer, une sorte de coffret avec vos 50 ans de carrière, c'est quand même beaucoup, 50 ans. Ouais. Et revenons à cette histoire avec Patrick Loiseau, votre donc, compagnon, vous disiez, vous avez une distinction qui m'intéresse beaucoup, vous dites pas fidélité, mais loyauté. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?
J'espère qu'elle n'écoute pas. Non, c'est-à-dire que fidélité, c'est un truc presque de chair, quoi. Donc, c'est-à-dire que les gens qui se jurent fidélité, ils vont pas voir ailleurs. Et ce qui est rarement complètement vrai, évidemment. Nous, à l'époque, au bout de 7 ans environ, on a commencé à déconner un peu, mais souvent à 3, c'était très sympathique et très joli, et absolument pas dégueulasse. Hein. Mais après, le 6 est arrivé, et là, on devient vraiment fidèle. Pas peur, quoi. Mais donc, je préfère le mot loyal, parce que quand on est chanteur, il arrive quand même très souvent qu'à un moment, dans la loge, qui est souvent en caravane, il y a quelqu'un qui arrive qui est plutôt appétissant.
Oui, surtout qu'il a fantasmé depuis 2 heures sur vous, sur scène.
Oui, donc c'est plutôt bien. Moi, je me souviens qu'à l'époque, à l'hôtel, en arrivant à l'hôtel, je disais au réceptionniste, c'est vous qui êtes là ce soir. S'il y a quelqu'un qui vient, vous le faites monter. Quoi que ce soit, femme, homme.
C'est bien ça. Ça me rappelle un peu Woody Allen. La réponse est oui, mais en fait, quelle est la question ? C'est une bonne manière de vivre, je trouve.
Oui, c'était. Tout ça, j'en parle parce que c'est tellement longtemps. C'était avant le sida, c'était avant que j'avais 78 ans. Là, quand j'ai eu 78 ans, il n'y a même pas un mois, un peu plus qu'un mois, et je me rapproche comme terriblement de 80. Pour moi, c'est incroyable. Quoi.
Bah, il faut faire un énorme concert pour vos 80 ans.
Oui, si vous voulez.
Non, parce que je précise, parce que tout le monde ne sait pas, vous avez eu un accident domestique, comme on dit, vous êtes tombé chez vous il y a quelques mois, vous avez fait quand même 4 jours de coma. Ouais. En gros, vous avez failli y passer. Et là, vous avez encore le désir de remonter sur scène, quand même.
Ah ben, déjà, c'est fait. Mais j'ai un peu peur. Je veux dire que j'ai fait une expérience, peut-être c'est marrant pour les auditeurs et les auditrices. On a fait une télé pour les 70 ans de Renaud. Donc tout le monde doit savoir qu'il a 70 ans. Et les chanteurs, plus ou moins connus, sont venus chanter chacune une chanson de Renaud. Et moi aussi. Mais seulement, j'ai beaucoup de problèmes de mémoire depuis cet accident. Et évidemment, tout le monde avait des prompteurs. Hein. Je pense que les gens savent ce que c'est un prompteur. C'est un écran sur lequel il y a la parole de la chanson. Bref, ça s'est pas trop mal passé. Je suis rentré chez moi et j'ai tout goûté de ce que j'ai mangé. Pour la première fois.
Et c'est revenu
Non.
Ah oui.
Mais c'est revenu une fois.
Oui, parce que vous avez perdu le goût et l'odorat à l'occasion de cette...
On peut en parler des heures, mais c'est pas le sujet.
Ouais. Non, mais surtout, on espère que ça va revenir. Vous parliez de Renaud. Eh ben justement, il a écrit une chanson pour vous, qui porte pour titre Une femme qui s'en va, dans votre album de 2019, Souviens-toi d'aimer. Je vous propose de l'écouter, je la trouve assez étonnante.
Femme qui s'en va, ça ne revient jamais. Ça se retourne à peine, et puis ça disparaît. L'amour devient alors comme un couteau planté. Plus rien ne peut guérir un cœur assassiné. Une femme qui s'en va, ça ne revient jamais. Peu importe qu'on pleure sur les années passées, les larmes ne sont plus qu'un torrent d'eau salée, qu'une source inutile où l'on va se noyer.
Voilà, c'était Une femme qui s'en va, une chanson écrite pour vous, Dave, par Renaud.
Oui.
Et pendant qu'on l'écoutait, vous disiez, ouais, c'est pas mal.
Oui, parce que la plupart des chanteurs, une fois que le disque est sorti, on l'écoute plus beaucoup, sauf si on chante une chanson sur scène, ce que j'ai fait Bobino avec cette chanson, entre autres. Ouais. Mais j'étais très, très, très content, presque surpris qu'il avait envie, parce qu'on n'est vraiment pas de la même famille musicale. En fait.
C'est étrange. Et puis surtout, ce texte-là, qu'est-ce qu'il lui a pris?
Moi, j'ai mes idées, mais j'ai pas trop envie d'expliquer ce que j'en pense. Mais Il est très attendrissant et très, on est très différent. Par exemple, là, sur ce disque dont on parle, là, il y a 80 chansons presque. Il y a plein de photos de Patrick Vazo et de moi jeune. Oui. Il a regardé ça et il a dit « qu'est-ce qu'on morfle ?» Donc il est très sympathique.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il a bien morflé, lui. Hein.
Ouais, bah, oui. Mais alors, Patrick Loiseau, dans cet album-là, il a écrit une chanson plus libre que l'air. On va pas l'écouter, mais je vais vous donner les paroles. Ouais. Parce que on dit souvent, enfin vous dites souvent, oui c'est bizarre, il est resté dans l'ombre. Parfois il prend la parole pour dire que ça lui a convenu, etc. Eh bien je propose de le faire un peu sortir de l'ombre. Je vais juste lire ce texte. C'est les paroles de la chanson plus libre que l'air, parce que je trouve ça très beau. Et comme ça, on va reconnaître le talent de parolier de Patrick Loiseau. Adolescent étonné d'avoir toutes ces années, j'ai claqué tout mon amour sans compter. C'est toujours ça de gagner. Repartir plus libre que l'air, devenir ce grain de poussière, repartir vers d'autres lumières. C'est pas mal, hein ?
Ouais, ouais. Mais lui, il se dit parolier, il dit je ne suis pas auteur, je suis assez bon pour m'appeler auteur. Je suis assez tort. La seule chose, c'est qu'il a pris comme habitude d'écrire sur des musiques. Mais de temps en temps, il fait des textes qui sont des poèmes sur lesquels on met de la musique. Donc pour moi, c'est quand même un auteur. Il est très fort.
Alors vous savez, repartir plus libre que l'air, ça m'intéresse parce qu'on a l'impression que vous avez une vie entière passée comme ça à conquérir une forme de liberté. Déjà, vous êtes né en Hollande, dans un pays où il y a beaucoup de liberté des mœurs, ça se voit, quoi, ça se sent. Et puis, on a l'impression que vous arrivez, en grandissant, à vous alléger de plus en plus. Et du coup, je voudrais vous faire écouter une autre chanson populaire qui peut-être nous aidera à répondre à la question, au fond, qu'est-ce qui fait la magie d'une chanson populaire ? Voilà Diego, libre dans sa tête, cette voix de France Gall quand même, comme votre voix quand vous chantez Vanina, comme la voix de Johnny quand il chante L'Envie, on se dit c'est dingue, en fait c'est notre voix, je veux dire ça nous touche, c'est ça une chanson populaire. À la différence d'un tube, en fait le tube on le chante un été, ça fait le buzz, ça prend comme ça, mais après ça s'essouffle, là il y a quelque chose qui reste. Alors j'ai une hypothèse, c'est qu'en fait on a par exemple, on avait grandi, nos parents écoutaient cette chanson. Et ensuite, quand nous, on l'écoute 20 ans après, on arrive un peu à imaginer ce que nos parents ressentaient. Et c'est comme ça possible pour plein de gens au sein du même peuple, ce qui fait qu'en fait, ça tisse des liens d'affect, et qu'en fait, grâce aux grandes chansons populaires, on est ensemble, enfin. Alors qu'on a du mal à être ensemble, finalement, on est séparés, on est dans le conflit, on est divisés, il n'y a pas vraiment la politique, plus personne n'y croit. Heureusement qu'il y a des chansons populaires.
Ouais. Il y a justement, en écoutant France Gall, j'ai pensé de nouveau à cette phrase en français que je ne supporte pas, c'est « elle a disparu ». Parce que justement, que ce soit votre grand-mère ou que ce soit votre copain, s'il est mort, il est mort, mais il n'a pas disparu, parce qu'il est dans votre tête. Donc c'est ça. Et une chanson, c'est un peu comme ça aussi.
Exactement, bah oui, mais c'est bien sûr dans votre tête, dans votre cœur. Et d'ailleurs, parfois, au même titre qu'on a le réflexe d'appeler un ami mort, on a encore son numéro, je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça arrive tout le temps.
Ah, j'ai plein mon téléphone, oui. C'est terrible. Mais ce qui est intéressant quand même aussi, c'est parce que ça change par le pays, parce qu'il marche dans un pays, il ne marche pas obligatoirement à un autre. Et les chansons de France Gall ont marché beaucoup et très très bien en Allemagne. C'est étonnant quand même, parce que ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas le même du tout socialement, ce n'est pas le même pays. Et les chansons de variété que je trouve personnellement les plus belles sont souvent italiennes aussi. Donc
c'est vrai. Et du coup, ce que vous dites, ça m'oblige à reconnaître que mon hypothèse ne marche pas. Parce que quand je dis que ça dit quelque chose, si on ne comprend pas les paroles, en tout cas, ça ne le dit pas du point de vue rationnel. Et quand je dis ça rencontre l'âme d'un peuple, si c'est un autre peuple, ça ne marche pas non plus. Bref, le mystère demeure. C'était Phoenix Alpha Zulu.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Dave. Dave, plus de 50 ans de carrière. Et Dave qui nous aide à entendre au moins la question, parce qu'on ne trouve pas vraiment de réponse. Mais la question, c'est qu'est-ce qui fait une grande chanson populaire? D'ailleurs, quand on écoutait cette chanson de Phoenix, vous trouviez que c'était bien. Ouais. Mais on voit aussi la différence. C'est bien, c'est de la bonne musique, mais ce n'est pas une chanson populaire. Il y a un truc qui ne se passe pas, quoi.
Oui, mais il y a là-dedans une chose dont on n'a pas parlé, qui est l'arrangeur. Parce que souvent, c'est pas le compositeur qui a fait l'arrangement, et c'est très très important quand même, les arrangements. C'est aussi important que les costumes dans une pièce de théâtre. Il y a plein de choses qui peuvent...
C'est vrai que vous avez raison, je suis un peu à côté de la plaque en train de chercher l'âme d'un peuple, le contenu substantiel, le message. Et vous dites attention aux arrangements.
Oui, parce que c'est un travail aussi. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est comme pour savoir pourquoi un ébéniste marche mieux qu'un autre ébéniste. C'est l'art, et c'est en même temps. Moi, j'ai toujours dit, je crois que j'ai entendu dire ça par Souchon, qu'on a plutôt des artisans que des artistes. Mais c'est quand même, il y a du travail, il y a de la réflexion et il y a la chance.
Et vous avez toujours travaillé avec les mêmes arrangeurs?
Non, mais c'est quand même les succès globalement que j'ai fait, qui sont quand même il y a longtemps. C'est le même arrangeur, M. Guy Mantioni, qui a fait beaucoup d'arrangements aussi par le Normand, pour plein de gens, les années 70. Mais c'est vrai que d'ailleurs, à un moment, les SACEM a donné un pourcentage
plus grand
arrangeur, et c'est assez juste, même si c'est emmerdant.
Ouais, on a aussi beaucoup dit ça de Gainsbourg, en disant que ça devait énormément aux arrangements.
Oui, mais c'est certain. En plus, il puisait quand même aussi dans les œuvres qui existaient déjà avant lui. Donc.
Oui, bah comme vous avec Vanina.
Ah, très peu. Puis c'est pas de ma faute. Puis je ne le savais pas. C'est vrai que.
Mais il y a aussi un emprunt à la musique classique, je crois.
Mais évidemment. Ouais. Mais évidemment. C'est-à-dire que c'est là où l'éducation, quand j'écoute Julien Clerc parler de côté de son père, c'était la musique classique, et c'est sa mère, c'est la chanson française, ou le contraire d'ailleurs. Je suis capable de mélanger les deux, parce que j'ai tombé sur la tête. J'ai des excuses, mais n'importe quoi.
Vous en sentez bien.
Mais donc, moi, c'est vrai qu'à la maison, ma mère était danseuse de ballet classique, donc beaucoup de Tchaïkovski.
Et votre père, professeur, je crois.
Et mon père était prof, et très, très, très francophile. Hein. Il écoutait beaucoup, beaucoup de chansons style Vian. Tiens, c'est marrant parce que...
Maurice Vian.
Macron me fait penser à Vian.
Ah oui, il le ressemble, c'est sûr. Ouais.
Ah, vous êtes d'accord aussi. Ils n'ont pas les mêmes dents.
Mais ils ont la même mâchoire, la même forme de visage, ouais. C'est troublant.
Peut-être qu'il va mourir jeune, alors.
Alors, vous avez dit que vos plus grands succès dataient d'il y a longtemps, c'est vrai. Mais moi, j'aime beaucoup une chanson de votre album de 2019, Souviens-toi d'aimer, la chanson L'Inventaire. Et vous dites, vous chantez, j'ai rangé mes certitudes et mes costards cintrés. Alors, quelles certitudes vous avez rangées?
Je dirais comme Socrate, en toute modestie, que je sais que je ne sais rien.
Ça, et maintenant, vous le savez?
Ça, je sais. Ouais. Et je sais aussi, grâce à mon petit accident, que c'est un cerveau. Je n'étais pas sûr, maintenant je suis sûr, parce qu'elle était inondée.
Vous avez eu des moments de doute dans cette carrière. Je précise aussi que vous avez une partie de votre carrière d'animateur de télé, ce qui est bizarre. Vous avez fait ça visiblement avec beaucoup de facilité, de légèreté, en reconnaissant que vous aimiez l'argent. En fait, vous aimez claquer de l'argent, vous aimez vivre en première classe, vous avez toujours dit ça. Vous n'avez jamais eu de doute, par exemple, notamment, que ça puisse entraver un peu le rapport à vous comme chanteur?
Ouais, j'avais un peu peur pour le boulot, parce que mon boulot, avant tout, c'est les galas. Ça s'appelle plus comme ça, mais moi j'appelle tout ça, ça comme ça. Et donc pour vivre confortablement, il me faut au moins 4-5 galas. Donc depuis 2 ans, je suis vraiment, personne n'a travaillé. Donc on n'est pas comme les restaurateurs, 25% de notre chiffre d'affaires qui tombe. Ça, on n'y a pas pensé. Et puis comme en plus les artistes, que ce soit des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses, on a jamais été cadre. Donc on a une retraite très limitée. Ouais. Donc, puis j'adore être sur scène. C'est quand même ce que je préfère au monde. Hein. C'est la scène, c'est le nirvana.
Vous parlez même d'une scène télévisuelle?
Quand on me l'a proposé, j'ai dit, tiens, pourquoi pas? Parce que moi, je parle beaucoup, vous l'avez remarqué, je parle beaucoup. Ouais. Sur scène aussi, je parle beaucoup, entre les chansons. Je trouve que c'est très important. Les parlottes entre les chansons, c'est un peu comme le dessin dans Jules Verne, quoi. Ça aide à pouvoir apprécier le reste. Et donc, j'ai dit, oui. Et puis, j'ai adoré interviewer des jeunes chanteurs. Je me souviens de Vianney, inconnu, des gens inconnus qui arrivent dans l'émission. Je trouve ça formidable à voir. Des gens qui étaient dans la comédie musicale comme moi, parce que j'ai fait 3 ans de comédie musicale, c'est une période formidable dans ma vie, et j'ai besoin de pouvoir donner quelque chose. Et le mot-clé dans le mariage, comme dans le set, sur la scène, c'est donner et surprendre.
C'est ça, oui.
Et quand je serai très pauvre comme chanteur, je vais ouvrir un bureau de conseil matrimonial.
Et quand vous donnez beaucoup, vous dites joliment, plus je donne, plus j'ai, hein, c'est comme l'amour, c'est pas ce qu'on donne, on ne le perd pas, en fait. D'ailleurs, c'est d'ailleurs aussi les paroles de Patrick Loiseau que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est très beau. J'ai claqué tout mon amour sans compter. C'est toujours ça de gagner. Et vous semblez aussi très fidèle en amitié. Vous avez évoqué tout à l'heure votre amitié avec Daniel Auteuil. Vous avez une amitié avec Marc-Olivier Fogiel. Vous avez même écrit une chanson au sujet de sa fille. C'est la fille aux deux papas. Ouais. C'est quoi pour vous un véritable ami? Je vais préciser ma question. Est-ce que vous penseriez plutôt comme Aristote qu'un ami, c'est quelqu'un qui vous fait progresser, qui vous rend meilleur? Ou plutôt comme Giorgio Agamben, qu'on ne demande pas à l'ami de vous faire progresser, mais d'être là et de vous rendre au moins la vie plus douce?
Non, je pense que c'est plutôt la deuxième proposition qui m'intéresse, oui. Mais l'ami, c'est une, là aussi une rencontre de hasard, et comme le hasard est l'ombre de Dieu, tout est là-dedans. J'aurais jamais pensé qu'en allant faire l'Eurovision en 2002, je crois, un truc comme ça, à Copenhague, j'allais rencontrer ce mec que je trouvais insupportable, et prétentieux, et qui coupe les paroles à tout le monde, tout ça, et que j'allais devenir un ami.
C'est Daniel Auteuil, c'est ça?
Non.
Non? C'est qui?
C'est Marc-Olivier Fogiel. Ouais. Parce que Daniel Auteuil est très peu présenté à l'Eurovision.
Oui, c'est pour ça.
Mais avant, c'était un grand chanteur qui est en tournée.
Oui, et d'ailleurs, il s'est lancé comme chanteur, Daniel Auteuil, grâce à vous. Enfin, il vous demande conseil, il vous demande de l'aider à placer sa voix, il vous demande ce que vous en pensez dès qu'il fait une chanson, je crois.
Oui, et vice-versa. Moi, je me souviens de lui avoir demandé c'est quoi d'être acteur quand on m'a proposé un film. Et sa réponse m'avait beaucoup, beaucoup intéressé. Et surtout, quelques semaines après, dans une émission à la télé, il y avait Meryl Streep, elle donnait la même réponse que Daniel. Oui. Le secret, c'est l'imagination. Et quand je joue dans un film où on me kidnappe, on m'entend hurler, on n'y croit pas un instant parce que je hurle faux.
Mais vous avez failli avoir un rôle grâce à Daniel Auteuil, je crois, dans un film prestigieux. Et puis, je crois, j'ai oublié qui c'est. Et finalement, il a dit, mais non, c'est une mauvaise idée.
Oui, c'était... Oh, merde, moi j'ai trouvé...
Piala, je crois.
Piala, bravo. Voilà. Et c'était... Merci. Et c'était pour jouer le frère de Van Gogh. Donc ça a été...
Ah oui, Théo Van Gogh.
Théo, parce que Piala a toujours été intéressé par les chanteurs. Et le fait que j'étais hollandais comme Théo Van Gogh, évidemment, tout ça...
Avait... Ah oui, c'est marrant. Et finalement, il s'est dit non, Dave,
on est sorti, on a dîné avec lui, sa bien-aimée de l'époque, je crois, et puis on est sorti de là, mais vraiment comme dans un pub d'une marque de cigarettes, Daniel et moi, on courait dans la rue, main dans la main, en disant, ça y est, on va travailler ensemble dans un film. Et puis ça, c'est pas fait, il a annulé le jour suivant.
Dites-moi, Dave, qu'est-ce qui vous met vraiment en joie dans la vie?
Il y a plusieurs choses. À part évidemment l'amour, il y a un très bon bouquin. Ouais. Un nouveau pays, la bouffe, je sais pas, je suis vraiment très très chagriné par ne plus goûter ça, mais l'amitié, évidemment, l'amour et l'amitié sont très limités, sauf que dans le cadre de l'amitié, on baisse pas, mais sinon c'est très très proche quand même.
Ce qui est intéressant, c'est que dans tout ce que vous évoquez, il y a toujours une curiosité pour ce qui n'est pas vous. En fait, ce qui vous met en joie, c'est ce à quoi vous vous ouvrez et qui n'est pas vous. Je vous propose d'entendre résonner la question de l'émission, qu'est-ce qui fait vraiment une grande chanson populaire avec ceci.
Au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara.
marins, des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique. Maureen aussi, l'église en granit de Limerick. Maureen a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connolly, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits.
Alors c'est vrai que cette chanson, elle est dingue. Il y a des gens qui la détestent parce qu'ils trouvent que Michel Sardou est un homme droitier, un peu réac. D'autres qui l'adorent, qui trouvent qu'elle est lyrique, qu'elle est même épique. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'on pense de Michel Sardou, elle emporte. Elle est un appel à la vie. Et c'est vrai que c'est une chanson qu'on chante à la fois à HEC, hein, dans l'école de commerce, et dans les bals populaires des gens qui n'ont pas fait HEC du tout. Donc il y a quand même une grande réussite.
Ouais.
Vous me racontiez d'ailleurs que vous aviez une anecdote assez intéressante avec Michel Sardou une fois.
Mais c'est-à-dire que Michel et moi, nous nous sommes croisés pour la première fois fin 67, au moment que j'avais signé avec Barclay. Donc c'était le 7 décembre, c'est le jour de l'anniversaire de ma mère, que j'embrasse. Ouais. Donc je m'en souviens. Et je trouve ce garçon intéressant, marrant, etc. Puis j'étais très impressionné après par ses succès, par les qualités des choix qu'il faisait, qui se trouvaient souvent très ambitieux.
Oui.
Je trouve que ça manque un peu d'humour sur la scène, et puis il en a ajouté, il se fait écrire des sketchs par Chiptroki, etc. Et donc après, bon, il a beaucoup vécu aux États-Unis, j'avais un peu perdu le vue, et puis un jour j'étais dans la loge des studios d'avant au bout de Chaumont, et la porte se laisse toujours ouverte parce qu'on ne sait jamais qu'on peut voir, et il passait devant, et je suis sorti pour l'embrasser,
oui.
Et je sentais que j'aurais pas dû.
Il n'a pas aimé?
Non, peut-être que j'embrasse pas bien, mais je l'ai dit, j'ai pas roulé une pelle, hein, j'ai juste embrassé amicalement.
Oui.
Et quand je le vois à la télé, je trouve qu'il fait plus vieux que son père, qui est mort pas très vieux. Et pourtant, je suis sûr qu'il a de l'humour. C'est un gars du Sud, je suis sûr que ça va être intéressant de le connaître mieux. Mais la vie en a décidé autrement, quoi. C'est comme ça.
C'est vrai. Et est-ce que vous avez connu dans votre parcours des échecs qui ont été un peu douloureux, des moments de creux que vous avez un peu mal vécu, ou alors vous avez toujours été finalement supérieur aux choses qui vous arrivaient?
Mais c'est-à-dire que moi j'ai ce qu'on appelle en français, dans le jargon du métier, le traversée du désert dans les années 80, en gros, quoi. Et c'est assez étrange, mais en même temps, je me retrouvais un peu plus jeune grâce à ça, peut-être plus lucide. On me dit souvent lucide, mais comme la plupart des mots qui ont l'air d'être des compliments en fonction de dosage, ça peut être aussi des défauts. Mais j'étais obligé d'aller chanter dans la discothèque. On va l'attendre en minuit.
Mais vous l'avez fait quand même.
Ah, je l'ai fait. Puis en minuit, quand il n'y avait encore personne, le patron disait on va attendre.
Mais c'est quand même fou. Hein. Alors que après l'immense succès,
ouais.
Ça me fait penser au film de Patrice Lecomte, Les Grands Ducs. Vous connaissez ce film?
Ouais, ouais.
Avec Jean Rochefort, et ils ont été des stars d'hier, et puis ils font des petits galas comme ça en province devant 20 personnes. Et donc vous avez fait ça.
J'ai fait ça, et ça s'est arrangé après. Et je me souviens des premiers coups de fil que j'ai reçus d'une station de radio. À Nantes, je crois, où le mec m'a dit « Vous qui n'avez jamais disparu, je dis « Je fous de ma gueule, sérieux ?» Mais parce que ça s'oublie aussi vite aussi.
Ouais, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne disparaît pas vraiment. On va écouter une chanson de vous, enfin un extrait « Let it be me » qui, je crois, nous aidera à comprendre cette position.
I bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone, now and forever, let it be me. Each time love, I find complete.
très belle chanson, Dave. Let it be me.
Gilbert Bécaud.
Ah, c'est ça?
Oui. Ah, belle chanson de Gilbert Bécaud. Et la chanteuse a le même accent que moi parce qu'elle est moitié hollandaise.
C'est Kerenan, je ne l'avais pas reconnu. En tout cas, c'est beau d'entendre ça. On voit bien que voilà, vous chantez très bien, qu'il y a une vraie profondeur, une vraie légèreté en même temps. Et c'est vrai que Let it be me, est-ce que ce n'est pas ça toute votre vie au fond? Laissez-moi être moi. C'est comme ça.
Faut-il encore savoir qui en est? C'est ça l'éternel problème. Mais c'est vrai que je chante souvent cette chanson sur scène quand on me donne un peu plus de temps que juste le tube. Mais c'est certain que Bécaud est un mystère extraordinaire pour moi. C'est vraiment un des hommes les plus forts sur la scène que j'ai vu de ma vie. J'en ai vu beaucoup, hein. Exceptionnel sur scène. Je crois que c'est Léo Ferré qui disait pour faire bien la scène, il faut être une grosse pute, mais il était dans le sens positif du terme.
Oui, ouais. Je comprends bien l'idée. Et ben, ce sera un beau, joli mot de conclusion.
C'est très fin. Oui.
Dave, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin sur le soleil de Platon. Je vais essayer pour nos auditeurs et pour vous remercier d'être venus, de résumer la philosophie de la vie qui est la vôtre et qu'on a entendue à travers cet échange très libre. Ben, j'aurais envie de dire que c'est une philosophie de la vie plus libre que l'air pour reprendre cette chanson écrite par Patrick Loiseau pour vous, dans laquelle il y a de la joie, de la légèreté, de la profondeur, dans laquelle tout ce qui arrive et qui ressemble à du hasard est en fait quelque part l'ombre de Dieu, et on arrive comme ça à cette espèce de façon d'oser être soi dans sa complexité, dans ses ambivalences, cette espèce de force qui fait que même en traversant le désert, on garde l'élégance de celui qui a eu un succès immense et qui au fond se dit que peut-être ça reviendra, et surtout on aurait envie de dire qu'il y a plus grave. J'aurais envie de conclure en disant que vous avez été évidemment sympa comme on le sait, mais surtout que pour moi, vous êtes surtout une voix, un grand chanteur populaire. Je ne sais pas si on aura répondu à la question, mais on aura en tout cas entendu qu'elle se pose et combien ça nous fait du bien d'être un peu réunis grâce à des chanteurs populaires et des chanteuses comme vous. Merci beaucoup, Dave.
Shukran.
Cette émission a été préparée par Vera Louderi et Fabrice Rivaud, à la réalisation Camille Maty, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, à la technique Julien Dumont. Quant à moi, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous demain matin à 9h sous le soleil de Platon.